poupée russe.
Happiness Radio, toujours au plus proche de vous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Happiness Radio, il est 19h.
Happiness Radio. Web et jeux vidéo, c'est avec Damien, Sabrina, Laura et Horta dans l'Antre du Geek sur Happiness.
Bonsoir et bienvenue dans le Before de l'Antre du Geek pour cette spéciale Power Rangers. Alors je me suis fait un petit kiff, désolé. Hein. Alors vous l'aurez deviné, c'est une émission un peu particulière puisque aujourd'hui nous allons nous concentrer sur ces super-héros en spandex combattant des monstres en carton-pâte, le tout avec des robots géants à base de dinosaures. Et parce qu'ils sont géniaux et qu'ils acceptent de faire tout ce que je leur demande, j'ai avec moi mes chroniqueurs, dont notamment Sabrina. Sabrina, bonsoir.
On n'est pas en plein cauchemar là ?
Alors je sais que du coup tu as beaucoup appris sur la télé japonaise en préparant l'émission.
Ah oui, c'était cool.
Laura, qui me maudit depuis une semaine et le fait que je lui ai demandé de parler de Power Rangers, le film. Laura, bonsoir.
Je veux pas parler ce soir.
Horta, qui ne parlera pas du jeu Power Rangers The Movie sur Mega Drive alors qu'il est pourtant absolument génial et que c'est d'ailleurs le premier jeu que j'ai fini de ma vie. Horta, bonsoir.
Bonsoir, bah je le testerai un jour, on va voir.
Ouais, tu viendras à la maison, on le testera.
Okay.
Et pour finir, Jean-Alain, qui, je sais au fond de lui, aime les Power Rangers. Jean-Alain, bonsoir.
Bonsoir, ah oui, j'adore ça.
Au sommaire de ce Before, on commencera une fois n'est pas coutume avec les news de la semaine, histoire de se laisser pleinement le loisir de parler du thème de l'émission. Ensuite, on enchaînera avec Sabrina qui nous parlera de...
L'origine des Super Sentai, évidemment.
Après, je vous emmènerai dans le monde des comics avec la sortie, il n'y a pas si longtemps, du tome 1 de GoGo Power Rangers. Toujours dans les reviews, Jean-Alain, tu nous parleras de...
No Longer Rangers.
On poursuivra avec la chronique jeux de société qui, bien sûr, sera toujours en lien avec les Power Rangers, puisque je vous parlerai du jeu de plateau Power Rangers Heroes of the Grid. Et juste avant de lancer l'émission, on se fait un petit plaisir. Attention, c'est parti! Et t'as vu ça, la transition de folie?
Magnifique, ouais, magnifique.
Bon, c'est un métier. Et c'est parti pour cette première heure avec les news de la semaine.
L'Antre du Geek, 19h-20h sur Happiness Radio.
Et on commence avec Horta qui a envie, lui aussi, de nous parler un peu de sa vie à lui.
Et oui, tout à fait. Nous avons inauguré la semaine dernière avec quelques amis l'Institut d'une Imperium de l'Oise transversale, autrement dit l'IDIO. Évidemment, cette entité n'a aucune structure juridique, ce afin de nous protéger des agents trop zélés du Deep State hexagonal et de l'URSSAF. Et n'a vocation qu'à célébrer le caractère éphémère et sacré de toute vie sur Terre, et de l'épice bien sûr. Et je précise pour Mika, Rio et Damien V que non, je n'ai pas gagné la dernière partie parce que j'avais la meuf qui gagne des thunes. La méta a changé en tournoi depuis l'extension Immortality, et oui les gars. Maintenant les leaders top tier sont Tessa Vernus et Ilban Richez, suivis par Vladimir Harkonnen, Raban la Bête et Undro Moritani. Je vous invite à voir à ce sujet les vidéos de Cheezable sur YouTube, comme du fromage. On comprend rien à ce qu'il dit, mais il a des stats intéressantes.
On commence les vraies news du coup avec une série tellement survitaminée qu'elle prend de l'avance sur sa dernière saison.
Alors que les trois premiers épisodes de la saison 4 de The Boys devront arriver pour le 13 juin sur Amazon Prime, la célèbre plateforme vient de commander une saison 5. Sûr du succès de la série aux super-héros déjantés, l'annonce a été annoncée hier sur X, entièrement Twitter, anciennement Twitter, accompagnée d'un petit teaser. Pour les fans, vous pouvez aller voir cette vidéo avant de retrouver cet été les Boys dans un monde au bord du gouffre. Et Power Rangers m'a perturbé.
Ouais, je vois ça. On enchaîne avec une franchise qui, contrairement au reste de l'émission, plaît beaucoup à Laura.
Oui, enfin, quelque chose que je suis contente de dire dans cette émission, c'est bien. Oui, je suis joyeuse de vous annoncer cette news aujourd'hui, en plus de la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir, prévue pour août 2024 sur Prime Video. Il se murmure depuis quelques jours qu'un nouveau film appartenant à la franchise de Seigneur des Anneaux serait annoncé pour 2026. Warner Bros. A dévoilé son projet d'un film centré sur la jeunesse du personnage de Gollum, dont le rôle sera repris par Andy Serkis, qui aura même une double casquette, puisqu'il réalisera également le film. Le film bénéficie également de la collaboration des producteurs légendaires de la trilogie initiale, Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens. Je vous explique même pas comment ça va être long pour moi d'attendre jusque-là.
On continue avec Sabrina, qui est en plein remplissage de sa feuille d'impôt.
Eh bien, auditeur collectionneur de cartes Pokémon, attendez-vous prochainement à avoir une petite visite du fisc, puisqu'est apparue au bulletin officiel des finances publiques une mise à jour précisant les règles fiscales des objets de collection. Les cartes Pokémon sont donc officiellement reconnues comme ne faisant pas partie des objets de collection et gardent ainsi le statut d'objet de consommation. Cela implique alors une taxation de près de 36,2% sur la plus-value dès lors que la vente dépasse 5000 euros. Contre 6,5% si elle était reconnue comme une collection. Et pour rappel, la carte la plus chère de l'histoire de Pokémon a été vendue pour près de 4,5 millions d'euros, ce qui fait quand même un peu plus de 1,5 million rien que pour les finances publiques. L'avocat Thomas Le Boucher précise que l'administration française ne fait qu'appliquer un texte européen qui définit clairement une liste d'objets de collection dont les cartes de jeu ne font pas partie.
Alors je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir arrêter les bêtises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on parle de TCG, qui est quand même jeu de cartes à collectionner, c'est dans le mot, c'est dans le nom en fait que c'est de la collection. Mais c'est le souci en fait que rencontrent beaucoup de collectionneurs, hein, que ce soit même de TCG ou même d'autres choses, de livres, de consoles de jeux ou autres. Je sais que moi j'ai le souci, plusieurs fois j'ai demandé une assurance, j'ai demandé à mes assurances si on pouvait assurer ma collection qui commence à s'élever à un petit quelque chose. Et ils m'ont tous dit, non, on ne prend pas ça en compte parce que pour eux, c'est du jouet.
Ce qui est encore plus étonnant, c'est que je pense que le chiffre d'affaires généré par les ventes, par les échanges, enfin le chiffre d'affaires, l'économie générée par l'échange de cartes à jouer doit être beaucoup, beaucoup plus important que celui des timbres ou des pièces de monnaie. Enfin,
c'est
une économie beaucoup plus importante. Donc,
C'est lié à l'image, je pense.
Ouais, c'est lié à l'ancienneté pour certains produits comme les timbres que tu cites. Et pour les TCG, c'est parce que c'est pas reconnu, c'est un truc de niche de quelques personnes et que c'est pas quelque chose qui est connu ou considéré par le reste de la société.
Oui, mais en termes de pratique, c'est mille fois plus important. Enfin, qui collectionne encore des timbres quoi, aujourd'hui?
Ouais, il y en a, mais.
Aujourd'hui, on collectionne des cartes Pokémon. Enfin...
J'ai une petite collection.
C'est vrai. Bah après, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment plus de collectionneurs de cartes Pokémon que de timbres maintenant?
Alors, il y a énormément de collectionneurs de cartes Pokémon et il y a une grosse économie avec Card Market qui tourne autour. Donc je pense que c'est normal que l'État... Enfin, c'est pas normal pour moi que l'État veuille se faire du beurre...
Alors oui, qu'il veuille se faire du beurre, je veux bien, mais de là à ne pas considérer ça comme un objet de collection... En fait, c'est ça. Le problème,
coup,
il est là.
C'est peut-être un prétexte, du coup.
Oui, c'est juste un prétexte pour faire de l'argent. Là, c'est juste ça. Ouais.
Bon. À présent, Laura, tu nous parles d'un des films de zombies les plus connus au monde.
Oui, Sony vient d'annoncer la mise en chantier du film 28 ans plus tard, suite des très célèbres films de zombies 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. 22 ans après le premier film, et non pas 28, on devrait retrouver à l'affiche d'un casting 5 étoiles avec notamment Ralph Fiennes et Aaron Taylor-Johnson. Danny Boyle reprendra de nouveau les rênes de la franchise, tandis que Cillian Murphy, star du premier film, sera quant à lui producteur exécutif, sa participation en tant qu'acteur n'ayant pas encore été confirmée. Si l'intrigue est bien évidemment toujours tenue secrète, le studio a d'ores et déjà annoncé que ce nouvel opus devrait arriver le 20 juin 2025 sur nos écrans.
Et on poursuit avec Jean-Alain, du coup, qui nous donne une info qui ne va pas nous remonter le moral à nous autres gamers.
Déjà, je m'excuse d'avance, hein, mais le monde du gaming va très mal en ce moment. Notamment Xbox, qui en fait encore de belles. Après la fermeture des Bethesda France à l'arrache sans même avoir eu droit à un communiqué, c'est au tour de pas moins de 4 studios du même éditeur de fermer, dont le studio qui a créé Hi-Fi Rush, qui je rappelle est un très bon jeu. Donc Tango Gameworks, qui a fait un jeu qui a eu un succès vraiment critique, et un très bon succès, comme chez les joueurs. Les 3 studios sont Alpha Dog Game, Roundhouse Game et Arkane Austin, provoquant ainsi 1900 licenciements. D'ailleurs, le lendemain de l'annonce, comble de l'ironie, un mail a été envoyé dans les murs de Xbox, leur demandant de faire plus de jeux comme Hi-Fi Rush. Bon, on a droit tout de même à une interview de Sarah Bond, présidente de Xbox, mais sans aucune vraie réponse et qui a esquivé les questions sur le fâcheux sujet. En résumé, c'est bien beau d'acheter à coups de milliards certains studios, mais si c'est pour en fermer d'autres, va falloir revoir la politique de la boîte. En tout cas, je suis pas sûr que les studios soient toujours motivés à se faire racheter par la marque verte après ça.
Et ça, on en reparlera dès la deuxième heure de l'émission, dès l'entre du geek, puisqu'on fera un petit focus sur l'économie du jeu vidéo et sur du coup les nombreuses fermetures qui nous laissent un peu pantois. Et on Horta maintenant, dis-moi, rassure-moi, tu as d'autres bonnes nouvelles quand même pour les gamers?
Non, moi j'en ai une autre pas géniale aussi. Ah. Et du coup, je vais me permettre de citer mot pour mot Canard PC. Et c'est pas de la flemme, mais c'est juste qu'il résume très bien la situation. De nombreuses pratiques calamiteuses se sont généralisées dans le jeu vidéo depuis 20 ans. Les éditions collector à 100 balles, les season pass, les DLC à 30 balles, les microtransactions et j'en passe. Une seule peine encore à s'imposer, la publicité in-game. Alors bien sûr, il y a eu des tentatives, mais elles sont finalement restées isolées. Attendez, on s'en occupe, vient d'annoncer fièrement Electronic Arts lors d'une conférence avec ses investisseurs. Comme le rapporte Tom Hardware, le boss de l'éditeur américain est dans les starting blocks. La publicité est un vecteur de croissance important pour nous. Plus loin, nous avons des équipes qui travaillent à la façon dont nous allons mettre ça en place de manière réfléchie. Spoiler, ça ne sera pas réfléchi du tout. Et il y aura des émeutes lorsque les gens se taperont des pubs, des pubs McDonald's et Starbucks dans le jeu qu'ils ont payé 70 balles.
Non, mais il a vraiment dit ça, sérieux ?
Oui.
Mais c'est pas, oui. Ça, c'est un...
Voilà, ça m'a rendu allergique,
ça,
toi.
Ça revient régulièrement, hein, cette histoire de pub dans les jeux vidéo, mais...
Non, mais Electronic Arts a vraiment dit, c'est bon, on est chaud, on y va, quoi.
Ouais ?
Non, mais sérieusement.
Il faut bien financer les triple A. Ça te coûte de plus en plus cher, ces triple A. Hein.
Et en sachant qu'il y a déjà des pubs dans certains jeux. Ouais. Je vais dire FIFA. Hein.
Mais bon, on en reparlera ça également dans l'heure prochaine. Merci en tout cas pour ces news.
L'entre du geek, 19h-20h sur Happiness Radio.
Avant de passer à la chronique de Sabrina, je vous propose qu'on s'écoute Clara Luciani et le titre Amour Toujours. C'était Clara Luciani et le titre Amour Toujours.
L'entre du geek, 19h-20h sur Happiness Radio.
Aujourd'hui, Sabrina, tu commences cette émission en nous expliquant les origines des Power Rangers si chères à mon cœur.
Alors, à chacun ses super-héros. Si côté outre-Atlantique, on a le droit à des types en collant moulant dotés de super-pouvoirs, du côté des îles nippones, les super-héros sont des Sentai ou des super-Sentai. En fait, le terme désigne l'ensemble des séries télévisées japonaises qui forment la base des séries ayant trait aux super-héros. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous les présenter. Enfin, décidé, c'est un doux euphémisme. Parce qu'en réalité, notre tyran, animateur, Damien, m'a imposé... m'a demandé avec moult gentillesse de faire cette chronique et sympa comme je suis, j'ai immédiatement accepté et cela sans râler.
Ouais, sans râler, c'est dire vite. Hein.
Non, je râle jamais et j'étais vraiment très contente d'en parler. Alors, enfin bref, pour commencer, un petit peu d'étymologie, que diable. Ainsi, le mot Sentai est formé des kanji combat et escadron et il signifie donc littéralement escadron de combat. Nom donné pendant la Seconde Guerre mondiale aux escadrons de combat de l'aviation au service de l'armée impériale japonaise. Et en effet, à la base, un Sentai, c'est une unité militaire. Et connu en France à travers, malheureusement pour beaucoup et heureusement pour d'autres, les adaptations américaines Power Rangers, les Super Sentai sont de véritables institutions au Japon. Ils trouvent leur origine dans ce que l'on peut appeler les Tokusatsu, qui est la contraction de Tokusatsu Satsai.
Et c'est quoi le tokusatsu ?
Eh bien, c'est un genre cinématographique et télévisuel évidemment japonais qui se caractérise par l'utilisation d'effets spéciaux. Et ce genre dérive du théâtre traditionnel nippon, le kabuki. Connu pour des scènes épiques et le jeu d'acteur qui peut apparaître comme spectaculaire et parallèlement très codifié. Et le katsusatsu emprunte beaucoup à ce théâtre, notamment son côté épique en mettant en scène des super-héros ou des créatures titanesques se battant durant plusieurs épisodes. Ces productions se caractérisent par des animations en volume, des maquettes, des costumes. Et les premiers du genre sortent dans les années 50 et particulièrement en 54 avec la sortie du célèbre Gojira, connu en Occident sous le nom Godzilla, devenu une véritable figure de pop culture. L'histoire de ce grand lézard, ce monstre, ce kaiju, qui selon les versions est soit un allié des humains, soit une menace, devient un succès mondial.
Alors est-ce que tu peux nous refaire quand même juste pour le plaisir la version japonaise ?
Godzilla.
Voilà, bien joué.
C'est cool, merci de m'avoir coupé au plein milieu d'une chronique importante pour juste m'entendre dire Godzilla. Alors, cette sortie s'inspire de la ressortie 2 ans plus tôt de King Kong. Et quoi qu'il en soit, le succès du film d'Ishono Honda Godzilla inspire d'autres personnes à s'intéresser au genre du katsutsu. toi, tu m'as perturbé. Tokusatsu. J'ai fait japonais LV1 et je le maîtrise très bien.
LV50, je pense.
LV50. Et ainsi, dans les années 60, beaucoup de séries se développent et contribuent à la démocratisation du genre, notamment avec la série Ultraman. Cette série de science-fiction met en scène une patrouille scientifique composée de 5 membres. Et retenez ce chiffre car il est important. Ils doivent observer et contrer des monstres extraterrestres. Mais ce qui nous intéresse a surtout lieu dans les années 70 avec de nouvelles séries et de nouveaux sous-genres.
Et c'est quoi ces sous-genres ? J'imagine qu'il y a des Sentai là-dedans.
Oui, mais pas que. Et alors, un peu de patience, je te promets Damien que j'y viens et que je vais en parler. Alors, sans traîner la patte, je vais vous présenter rapidement les 5 sous-genres. Et dont le premier de ces sous-genres sont les Zenshin Heroes, des héros capables de se transformer en super-héros costumés ou en changeant de forme. Les exemples du genre sont Ultraman et... Alors, Son Kukai, petit coucou à ma maman qui regardait cette série, est une sorte de Star Wars très revisité qui a fait réagir Horta dans les studios. On a aussi les Metal Heroes, des héros qui revêtent des armures métalliques, et les Onna Senshu, la petite girl power, car on a dans ce genre des héroïnes qui se transforment en super guerrières, et l'exemple que j'adorais gamine, c'est... Alors, vous avez sans doute reconnu du coup Sailor Moon. Et enfin, le dernier sous-genre, c'est les kaiju séries qui mettent en scène des monstres qui détruisent des villes comme Godzilla.
Et Sabrina, tu as dit 5 sous-genres et tu en as présenté 4. Mais ils sont où les Super Sentai ?
Bon, on voit le fan et le prof de maths aguerri que l'on ne peut duper. Donc, le 5e sous-genre qui nous intéresse particulièrement, vous l'avez compris, ce sont les Super Sentai. Ce genre est une véritable institution au pays du soleil levant. Depuis les années 70, certains seront surpris, plus de 45 séries du genre à l'heure actuelle. Les Super Sentai apparaissent pour la première fois en 1975 au Japon avec la série Go Ranger. De son nom complet, Himitsu Sentai Go Ranger, ce qui signifie l'escadron secret. Et cette histoire met en scène 5 héros aux costumes évidemment colorés, dotés de super armes, qui cherchent à combattre les forces maléfiques de la Croix Noire. Rien que cela. Cette série est inventée par Shotaro Himitsu no Mari, un mangaka et un des disciples du père du manga moderne, Osamu Tezuka. C'est véritablement le titre que l'on donne à ce monsieur à qui on doit entre autres Astro le petit robot. Go Ranger compte 84 épisodes de 25 minutes qui posent les bases du sous-genre des Super Sentai. Il s'agit d'un genre hyper codifié dont les codes sont stricts et ainsi particulièrement reconnaissables.
Et c'est quoi les codes du genre ?
Eh bien, les codes, c'est déjà une équipe de...
Laisse-moi du nez, 5.
Eh oui, 5 héros avec en général les super pouvoirs qui ont des costumes kitsch et particulièrement colorés, voire fluo, quand ils se transforment. Ce qui est très différent des autres genres du Tokusatsu, où les costumes peuvent être plus sombres, le héros en rouge est généralement le chef d'équipe et le héros principal. En tout cas, nos 5 héros luttent contre une organisation maléfique. On est dans une lecture très manichéenne, avec les gentils et les méchants. Et dans ces productions, on a des effets spéciaux à petit budget et scénarios simplistes. Les épisodes ont tous la même structure. Un des héros rencontre un problème causé par un monstre de l'épisode et les autres membres lui viennent en aide en battant le monstre après quelques péripéties. Ils gagnent et cela les rapproche à chaque épisode du monstre ultime. Et en tout cas, cette première série est un véritable succès qui donne naissance à d'autres comme J.A.K.C. Désolé, je vais encore mal le prononcer. Tenge Kikai, mais Damien peut le prononcer à ma place, ça sera beaucoup mieux.
Denge Kitai.
Eh bien, c'était pas beaucoup mieux, et donc on poursuit. Où les costumes s'inspirent des motifs de jeux de cartes, trèfle, pique, cœur, carreau. Là, c'est plutôt un échec.
Bon, on va arrêter la compétition de prononciation japonaise. Comment on relance les Super Sentai ?
Après un échec, on se relève et on repart. On adapte Spider-Man à la sauce japonaise, ce qui donne Supadaiman. J'en ai réussi un. Marvel collabore avec la Toei Animation. Ah, on ne pouvait pas tout réussir d'un coup. Qui domine les productions des Tokusatsu. Bon, on est plus dans le côté Ancient Hero, mais cela relance la dynamique. En effet, la dynamique des deux entreprises conduit à créer la franchise Super Sentai Série qui s'installe comme un classique du Tokusatsu. La première série de la franchise est Battle Fever J en 1979 et cette série emprunte à Supadaiman, un élément qui va devenir important dans les Super Sentai, les mechas. Ce sont des personnages utilisant ou incarnant des armures robotisées, généralement de forme humanoïde. Et bon, depuis 1979, le sous-genre Super Sentai n'a pas connu de pause dans sa production au Japon. Le rythme de production est par ailleurs assez soutenu avec une série par an en diffusion hebdomadaire. On a le droit à son épisode chaque dimanche et le Super Sentai s'est essayé à plein de thèmes différents en gardant les codes que nous avons vus. La magie, les arts martiaux, le monde militaire.
Et même les trains. J'ai vu qu'ils ont fait un truc sur les trains. Comment se diffuse le Super Sentai à travers le monde ?
Eh bien, le Super Sentai a donc une place très importante dans la pop culture japonaise. C'est aussi un ambassadeur du Tokusatsu à travers le monde. Et si on les connaît si bien, c'est d'abord avec la collaboration Marvel-Toei qui laisse place à la collaboration ensuite Bandai-Toei. La production Super Sentai devient mercantile, le but premier étant la vente de jouets pour enfants. On doit donc la diffusion de la franchise Super Sentai grâce à la célèbre, merveilleuse, que dis-je, l'extraordinaire adaptation américaine Power Ranger par le producteur américain Hans Saban, n'est-ce pas Damien ? Il n'est plus là. En voyage au Japon pour apporter des produits en Occident. Il tombe en 1975 sur Go Ranger, la première série du genre, et se procure les VHS, des cassettes que beaucoup ne connaissent pas. Ou plus. À son retour, on se moque de lui, mais face au succès des animés japonais et l'argent gagné à l'Eurovision en 1983, il avait produit la gagnante du concours, il fonde Saban Entertainment, qui double et adapte les séries japonaises comme Dragon Ball. Il importe les Super Sentai et on reprend les concepts, costumes, scènes de combat, des séries d'origine, mais en ajoutant des scènes inédites avec les acteurs américains et en réadaptant les intrigues. Et pour la petite histoire, Saban a tellement bien rédigé le contrat que les séries originales ne peuvent plus sortir de l'archipel nippon sans qu'il y oppose son veto. C'est la série américaine ou rien. Sympa. En France, les Super Sentai arrivent sur nos écrans en 1985 avec la série Super Sentai Shōdenji Bioman, raccourci en Bioman. En En France, on assiste à un véritable succès par l'intermédiaire du Club Dorothée qui importe d'autres séries du genre. La hype s'efface un peu avec ces séries qui ne sont jamais diffusées jusqu'au bout, surtout qu'à l'époque, une certaine Ségolène Royal trouve ces séries trop violentes. Ces séries sont déprogrammées à la suite de cela. Et la version japonaise, c'est fini. Mais c'est pas grave, on va prendre la version américaine, les Power Rangers.
Et là, je me fais plaisir.
Et depuis, il y a eu différentes versions des Power Rangers. La série et le merchandising rapportent 5 milliards de bénéfices par an, dont en partie rien que par Damien.
Et juste pour le plaisir. C'est juste génial en fait, cette musique métal et tout, c'est génial. Alors merci en tout cas Sabrina.
Tu veux nous expliquer Damien le trip Power Rangers quand même. Tu vois, on n'aura pas une définition de pourquoi. Le why, how, qu'est-ce qui est si bien en fait dans les Power Rangers?
Bah en fait,
dans les Super Sentai, c'est alors, quoi
dans le Super Sentai, ce qui est intéressant en fait, c'est que du coup, tu as non pas un, mais cinq héros qui ont des personnalités généralement très différentes et pour lesquels tu vas pouvoir t'identifier. Et puis, tu as cette idée que, bah, en fait, quand tu es gamin, tu as quand même des dinosaures robots.
Oui, mais là, tu n'es pas gamin, Damien.
Non, en fait, c'est un traumatisme lié à l'enfance.
Damien est toujours gamin.
Autour d'un verre, une fois que Damien m'avait raconté qu'il était tombé d'un escalier, sa tête avait heurté la table basse au moment où le générique des Power Rangers commençait.
Et c'est là qu'a commencé son
amour.
Mais en fait, c'est plus de la nostalgie, on va être très honnête. Et pour beaucoup, beaucoup de fans de Power Rangers encore aujourd'hui, adultes, je parle.
Il y en a beaucoup.
Ouais, on est vraiment nombreux.
Ils sont mauvais, j'en compte deux, moi.
Ils sont quatre dans le monde.
Non, ils sont nombreux.
Non, on est nombreux. Parce que non, ils sortent quand même plein de trucs. Mais voilà, c'est ce côté nostalgie. Alors, bien évidemment, c'est du carton pâte, bien évidemment, quand on regarde la série.
Il y a un côté kitsch, mais qui est assumé, qui est
totalement
apprécié, je crois.
Parce que quand on regarde les séries Power Rangers avec les acteurs américains qui sont là pour jouer sans costume, et qu'en pleine scène de combat, tu vois l'image qui est datée, puisqu'il y a environ 5 ans d'écart entre la version japonaise et la version américaine, donc il y a vraiment un grain d'image qui est différent. Il y a le fait que dans les scènes de bataille, tu vois des panneaux écrits en japonais, tu vois sur la route, c'est des écritures japonaises.
Donc c'est aussi l'amour du kitsch.
Ouais, ouais. C'est, je pense qu'il y a un côté kitsch. Après,
quand
j'étais gamin, je voyais pas tout ça. Pour moi, je trouvais ça génial, parce que ouais, il y avait des robots géants, quoi. Il y avait des dinosaures robots géants.
Damien aime tout ce qui est vieux.
Non, non, non.
Et les robots.
Dites pas ça à ma femme. Donc,
elle écoute pas.
Voilà. Merci en tout cas, Sabrina, pour cette chronique.
De rien.
L'entre du geek, 19h-20h sur Happiness Radio. Ouh. Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream been chasing is my own, so I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog, keep on keeping at what you love, and you'll find that someday soon enough you go. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog,
c'était Underdogs de Alicia Keys.
Du Geek, 19h-20h sur Happiness Radio.
Eh bien aujourd'hui, bah laisse-nous deviner, tu vas nous parler d'un comics Power Rangers ?
Et oui, sorti le 20 avril dernier, GoGo Power Rangers est un comics qui se passe dans le monde de la série de jeunesse, la série jeunesse la plus importante de l'histoire de l'humanité.
Moi, ce que j'aime avec toi, c'est que t'en fais jamais un peu trop.
Non, légèrement. Bon, pour les quelques-uns qui ne connaissent pas Power Rangers, déjà, alors, vous étiez où durant les années 90 ? Et ensuite, l'histoire raconte les aventures de 5 adolescents. Et oui, petite référence à Sabrina. Choisi par... D'ailleurs, comment on dit ça, la série où ils sont 5 ?
Les Super Sentai.
Oui, mais... Ah oui, pardon, c'est un sous-genre des...
Des Tokusatsu.
Donc, ces 5 adolescents sont choisis par un être extra-dimensionnel du nom de Zordon pour combattre la sorcière Rita Repulsa qui cherche à conquérir le monde à grands coups de monstres. Pour les aider, nos héros auront accès à une sorte d'armure leur donnant force, vitesse et agilité. Et lorsque le méchant devient géant, ils peuvent faire appel à des robots géants sous la forme de dinosaures qui se combinent comme des Lego pour devenir le fantastique Megazord. Cela fait maintenant plus de 30 ans que cela dure et on aura moult aventures, moult changements d'équipe, de robots, de méchants, bref, on n'a pas de quoi s'ennuyer.
Eh bien, merci Damien pour cette chronique, on va passer à la suite.
Alors attends, stop, minute papillon, là j'ai parlé de la série télé. Maintenant je vais vous parler du comics GoGo Power Rangers. Même si les Rangers existent sous forme de comics depuis un certain temps, entre 2017 et 2020, Ryan Parrott écrit pas moins de 32 issues qui relatent les débuts de l'équipe. Et quand je dis début, je parle vraiment des débuts. Concrètement, on commence direct après le premier épisode de la série télé. Les Rangers ont combattu un seul monstre et ne maîtrisent pas encore l'ensemble de leurs pouvoirs. Mais là où ça change, c'est qu'on ne va pas se concentrer tant que ça sur les combats suivants, mais sur les effets que cette première apparition de monstre a eu sur la population de la ville d'Angel Grove, ainsi que sur les Power Rangers et leurs familles. On retrouve ainsi Kimberly, la Ranger Rose, qui doit gérer sa famille qui se déchire et son petit ami qui ne comprend pas pourquoi elle se met à se disparaître avec ses amis. Trini, la Ranger Jaune, qui subit une pression énorme de la part de sa mère en ce qui concerne ses résultats scolaires. Billy, le ranger bleu, cible d'harcèlement scolaire. Zach, le ranger noir, qui a du mal à comprendre pourquoi il n'a pas été choisi pour être le leader de l'équipe. Et Jason, le ranger rouge, qui doit faire face à son passé de petite frappe et qui cherche un moyen de se repentir. Bref, vous l'aurez compris, ici, le côté humain est extrêmement présent.
Tiens, on dirait un peu le film que Laura a kiffé de 2019, non ?
Alors, je me suis fait exactement cette réflexion et c'est ce que j'avais reproché à l'époque au film. Car clairement, on avait affaire à un genre de groupe d'adolescents dépressifs qui cochait toutes les cases des clichés. Mais je sais qu'on en reparlera dans l'émission. En tout cas, dans GoGo Power Rangers, cela est beaucoup mieux amené. On n'est pas dans cette caricature qu'on avait sur grand écran. Ici, le propos sert pleinement la narration, car après tout, on voit la construction de l'équipe des Rangers dans un environnement où leurs choix et surtout leurs combats ont des conséquences importantes sur le reste de la population. On pourrait presque comparer cela à un espèce de teenage movie dans lequel les héros pilotent des dinosaures géants qui se transforment en robots. Bon, après, il est vrai que le scénariste est un spécialiste des Power Rangers. Déjà, Ryan Parrott est un enfant des années 90, biberonné à la série originelle et au film de Sam Raimi. Il est connu notamment pour son travail sur la série de comics principale Power Rangers et sur le crossover Power Rangers et les Tortues Ninja, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois. Donc autant dire que de ce côté-là, pas d'inquiétude.
Et d'un point de vue du graphisme, ça donne quoi ?
Alors, au dessin, on a un peu Raoul Angulo, je suis désolé, j'ai fait japonais, moi, deuxième langue, qui a également travaillé sur la série principale, mais on a surtout le merveilleux Dan Mora, qui est à l'origine des couvertures de comics les plus magnifiques que je possède. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on pense comics et Power Rangers, on pense Dan Mora. C'est le spécialiste et c'est clairement un dessinateur de génie. Il est également connu pour son travail sur Buffy contre les vampires, car oui, il y a eu un comics Buffy contre les vampires que j'ai même pas eu le temps de finir parce que j'ai laissé tomber, pour moi j'aime pas. Et il commence à faire sa place auprès des plus grands chez DC. Donc autant dire que les dessins sont fluides. Après on a un style graphique très moderne qui se rapproche beaucoup du manga comme c'est beaucoup le cas de nos jours. Mais perso j'aime bien. Et après, je sais que cela ne plaira pas forcément aux fans de comics dits graphiques.
Mais Buffy, c'est bien. Bon, du coup, pour résumer, une franchise que tu adores, des dessins qui te plaisent, des artistes que tu rêves de rencontrer, j'imagine que ça t'a plu, du coup.
Je sais pas. Pour la petite histoire, j'ai l'intégralité de GoGo Power Rangers en VO à la maison, mais je les ai jamais lus. Ils font partie de ma pile de la honte qui jonche le sol de mon bureau. Mais comme le bon vieux gros pigeon, grand fan que je suis, j'ai bien évidemment racheté la VF dès sa sortie et je me suis dit, allez, c'est l'occasion de s'y mettre. et je dois avouer que je suis un peu déçu. Je dirais pas que j'aime pas, mais c'est vrai que quand je pense Power Rangers, je pense bataille de monstres, des transformations et des robots géants. Alors oui, j'aime quand il y a un peu de profondeur dans l'histoire, mais clairement, ce qui me plaît, c'est quand un nouveau Ranger apparaît, ou mieux, quand on fait une nouvelle combinaison de robots. Power Rangers reste pour moi un plaisir enfantin, une Madeleine de Proust que tout bon petit garçon des années 90 aime se remémorer aux côtés des Chevaliers du Zodiac et du Super Saiyan 3 de Dragon Ball Z. Après, c'est vrai que c'est intéressant de voir les débuts de l'équipe, de voir les doutes de chacun, de donner un côté humain à ces adolescents aux super-pouvoirs. C'est intéressant de voir comment la population réagit au chamboulement que provoque l'apparition des Power Rangers dans la paisible ville d'Anton Grove. Mais je ne sais pas si j'ai envie de lire 8 tomes comme cela, car si mes calculs sont bons...
Ce qui n'arrive pas souvent.
Vestron devrait combiner les 32 issues sorties en VO en 8 tomes. J'ai presque envie de reprendre en VO pour voir si le côté psychologique et teenage s'efface petit à petit, savoir si je continue d'investir dans la collection en VF.
Attends, genre, tu vas pas les acheter.
Ouais, bon, ok, je vais les prendre, mais vous avez compris, quoi. Bref, GoGo Power Rangers, c'est un comics qui, bien évidemment, se destine à un public de fans de la franchise, mais il peut également servir de porte d'entrée pour ceux qui auraient envie de replonger dans l'univers. Je lui mets donc la note de 70 sur 100 avec la mention « bien, mais doit faire ses preuves ».
Bah, merci Damien pour cette review.
L'entre du geek, 19h-20h sur Happiness Radio.
Alors, avant de passer à la review manga, je vous propose qu'on s'écoute Imagine Dragon et le titre Enemy. To the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest.
The laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. For me, I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him my silhouette go. I wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, thinking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking second, pack it up. I don't panic, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your.
C'était Imagine Dragon et le titre Enemy.
L'entre du geek, 19h-20h sur Happiness Radio.
Toujours dans le thème de l'émission, Jean-Alain, tu as réussi à trouver un manga qui parle de Power Rangers ou en tout cas de quelque chose qui s'en rapproche.
Je dois avouer qu'un certain ressentiment s'est exprimé en moi quand notre cher Damien m'a demandé de parler de Super Sentai dans ma chronique manga. Parce que déjà, les Power Rangers, c'est pas pour moi. Mais en plus, c'est totalement absent du monde des mangas. Je pensais alors me venger. Dans ma tête, j'avais une image de clous et de roues de voiture. Après, je me suis rappelé que c'est lui qui me ramenait à la maison ce soir.
Dommage, hein.
Et du coup, avec un peu de recherche, je suis tombé sur un animé qui était sorti récemment, No Longer Rangers, dont j'ai adoré le premier épisode. je me suis penché sur la version papier.
Tu peux nous en dire un peu plus de cette version papier ?
Pour commencer, parlons de l'auteur. D'ailleurs, j'ai été assez surpris, car ce manga est écrit par Negi Aruba, qui, je rappelle, a écrit The Quintessential Quintuplet. Ne faites pas répéter.
T'as un meilleur accent que Sabrina, hein, je trouve.
Ouais, merci, mais c'est compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire d'un jeune homme brillant mais fauché qui se trouve un job de prof particulier, pensant que ce serait assez facile avec un seul élève. Mais surprise, il a affaire à des quintuplés, assez durs à gérer. Bon, je vais pas en parler plus, car peut-être un jour j'aurai l'envie d'en faire une review, ou pas.
Bon, et si on revenait à No Hunger Ranger ?
Après l'arrêt de son premier manga, l'auteur a décidé de passer à un nouveau registre, le Super Sentai, avec No Hunger Rangers. Alors comment résumer en quelques mots ce manga ? Un Super Sentai à la sauce The Boys, donc forcément plus intéressant. En voici un résumé assez simple. Dans un monde assez proche du nôtre, un groupe de Super Sentai appelé les Dragon Keepers, une équipe ressemblant étrangement aux Power Rangers, mais en plus classe, se battent avec courage pour défendre la Terre contre les forces du mal, contre leurs multiples invasions. Mais tout n'est pas comme ce qui semble être, car les méchants ont été vaincus depuis fort longtemps, 13 ans à peu près. Et les Dragon Keepers ont décidé de faire un pacte avec les troupiers restants, c'est-à-dire maintenir l'illusion qu'ils protègent la Terre encore pour garder leur statut de protecteur de notre si belle planète. Quand le manga débute, l'un des sbires, le troupier D, en a gros sur la patate, et décide de tout faire pour se débarrasser des imposteurs.
Alors, et tu en as pensé quoi du coup ?
Alors, pour moi, le manga est un vent de fraîcheur. Le héros, ou plutôt l'anti-héros, si l'on devait le qualifier ainsi, est attachant. Le manga rappelle bien que les troupiers étaient horribles à l'époque de leur apparition, mais j'ai eu pitié de son sort, et je me suis mis de leur côté. Le fait qu'ils attaquent que le dimanche après-midi me fait plutôt rire. Cela montre aussi le fait que les Dragon Keepers ont réussi à créer une belle illusion pour créer une emprise sur le monde. Et je jubile à chaque fois qu'une crasse arrive à ces faux héros. J'aimerais bien que ça fasse aussi pour les Power Rangers. Hein, je préfère éviter d'en raconter plus, car là, ça deviendrait du spoil. Et ça serait dommage pour vous, car ce manga mérite d'être lu. Les dessins sont classiques, mais plutôt efficaces. Et je dois avouer que je trouve que certaines planches sortent du lot.
Et j'imagine qu'il y a peut-être des points faibles, non ?
J'ai cherché, mais malheureusement, j'en ai pas trouvé. Donc je pourrais pas en citer. Au final, je peux que vous le conseiller, et le manga m'a conquis. J'aime son ton satirique, et le fait que ça envoie des balles perdues à Power Rangers, au Bioman, si je ne cite que les plus connus. Et ça m'a rappelé, d'une certaine manière, le comic The Boys, qui fait la même chose avec les super-héros, et que j'ai aussi adoré d'ailleurs. No Hunger Ranger est mon coup de cœur pour cette année.
Et en ce qui concerne l'animé ?
Sans surprise, j'ai autant kiffé. Les animateurs de YoStar font un super boulot, l'animation est belle et les combats sont vraiment cool. Même si le studio semble plutôt récent et n'ayant pas encore fait beaucoup d'autres adaptations, je leur souhaite un bel avenir pour leur futur animé. Le manga est totalement respecté et je suis en adoration sur l'opening et l'ending à un tel point que je les écoute en boucle. Ma femme va en avoir marre à force. Les doubleurs japonais font un super boulot et donnent l'impression qu'ils s'amusent. À ce jour, nous n'avons pas encore de version française, mais au vu de la qualité de l'animé, ça devrait plus tarder. Comme vous pouvez le deviner, je suis conquis encore une fois.
Bon, et si on imagine, tu devais donner une note à No Hunger Ranger ?
Alors, pour le manga, je dirais un bon 9 sur 10, et c'est pareil pour l'animé. Je monte pas 10 sur 10 car la perfection n'existe pas. Mais j'avoue qu'il est assez dur pour moi de lui trouver des défauts. Et pour finir, si vous aimez les Super Sentai, ce manga est fait pour vous. Et si comme moi vous avez en horreur les Power Rangers, ou comme Laura par exemple, c'est encore plus fait pour vous. No Hunger Ranger, c'est une petite perle que je ne peux que vous conseiller.
Alors, j'ai lu le premier tome parce que j'ai galéré à le trouver en France, et puis finalement là d'un coup je le vois partout. Je sais pas, il est sorti récemment en France.
Alors, non, ça fait depuis un an que c'est sorti, mais depuis la sortie de l'anime, il y a eu une hype et tous les tomes ont été vendus très rapidement. Ils ont fait urgemment une réédition.
Ouais, c'est pour ça, parce que ouais, j'en avais entendu parler, je m'étais dit, faut que j'essaye, et impossible.
D'ailleurs, le tome 9 sort demain.
Ouais, c'est ça, il sort demain, j'ai eu la petite alerte.
Oui, mais déjà commandé.
Toi aussi, t'es comme moi, t'as tes petites alertes.
Jean-Jean, c'est aussi un pigeon comme Damien.
Ouais, alors, pas pour Power Rangers, par contre.
Oui, mais pigeon un jour, pigeon toujours. Ouais. Merci en tout cas, Jean-Alain, pour cette chronique.
L'entre du geek, 19h-20h sur Happiness Radio.
Avant de passer à la chronique jeux de société, je vous propose qu'on s'écoute Avamax et le titre Torn. C'était Avamax et le titre Torn.
L'entre du geek, 19h-20h sur Happiness Radio.
Bon, je pensais être tranquille moi, au moins du point de vue des jeux de société. Et là Damien, t'as réussi à nous trouver un jeu Power Rangers.
Et pas n'importe lequel. Si je vous dis que ce jeu est à la fois un jeu de cartes, un jeu de dés, un jeu de figurines, vous allez me répondre ?
Que c'est le fouillis !
Alors, eh ben non. Ce jeu n'est autre que Power Rangers Heroes of the Grid. Édité par Renegade Studio, Power Rangers Heroes of the Grid a pour objectif de nous mettre à la place des ados en costume de spandex dans le seul but de sauver la ville d'Angel Grove de l'attaque des monstres de la cruelle Rita. Pour cela, nous allons incarner les 5 rangers originaux possédant chacun leurs capacités propres, leurs cartes perso et bien évidemment leurs ordres. Vous l'aurez sans doute deviné, mais Power Rangers Heroes of the Grid est un jeu totalement coopératif. Ici, on se bat contre le jeu et croyez-moi, cela ne sera pas chose aisée.
Un jeu coopé en plus, bon, ok pour l'idée générale, et ça joue comment ?
Alors pour la mise en place du jeu, on va disposer 4 petits plateaux représentant chacun un lieu emblématique de la ville d'Angel Grove, et au centre, le célèbre centre de commande QG des Power Rangers. Chaque joueur va avoir quant à lui sa figurine représentant son ranger, ainsi qu'une grande carte expliquant la capacité particulière dont il a accès, mais aussi son deck de cartes personnalisé pour chaque personnage, ce à quoi s'ajoute un plateau annexe commun appelé Powerboard, sur lesquels sont placées les cartes Zord qui sont encore en réserve pour le moment. En plus de tout ça, nous allons avoir des jetons énergie, des actions et surtout des dés nécessaires pour la phase de combat.
Waouh ! Mais toi, ça me semble être beaucoup de matos tout ça.
Alors, ouais, j'avoue. Et ce n'est que pour les joueurs. Pour les méchants, nous aurons également des figurines représentant les patrouilleurs, qu'on peut considérer comme des sbires lambda, mais aussi un monstre et un boss qu'il faudra battre pour gagner la partie. Bien évidemment, tout ce petit monde a également son deck bien à lui, ce qui augmente encore le matériel et surtout la place nécessaire.
Ouais, bon, là, tu nous as toujours pas dit comment ça joue, hein.
Alors, au début de chaque tour de jeu, on va révéler 5 cartes déploiement qui vont nous dire quels adversaires et combien vont apparaître dans chaque localisation. Celles-ci ont d'ailleurs un seuil de panique sous la forme d'un chiffre qui représente le nombre de figurines de méchants pouvant être présentes en même temps sur le plateau. Si ce nombre est atteint, plus aucun méchant ne peut être déployé ici, mais un jeton panique est placé sur la localisation. Si les 4 lieux sont en panique, mais en même temps, les joueurs perdent la partie. Il en va de même si les joueurs n'ont plus de points de vie. Le seul moyen que les gentils aient de gagner, c'est de battre le boss. Une fois la phase de déploiement effectuée, c'est au tour des rangers de jouer. Ils auront alors 3 actions possibles. La première, se déplacer vers n'importe quel lieu. La deuxième, le recover, qui permet de remélanger certaines cartes de sa défausse vers son deck. Et la troisième, la plus importante, lancer un combat.
Bah là, ça devient intéressant.
Alors, dès qu'un joueur lance un combat, on révèle autant de cartes patrouilleurs qu'il y a de figurines sur la localisation et 3 spécifiques aux monstres ou boss présents. Chaque carte représentant un nombre de points de vie et une action particulière. Si ces actions peuvent aussi bien infliger des malus ou tout simplement des dégâts. Si c'est le cas, un ranger présent va se porter volontaire pour défausser des cartes jusqu'à avoir autant ou plus de petits boucliers visibles sur le bas de ses cartes qu'il est censé prendre de dégâts. Si son deck est épuisé et qu'il reste des dégâts à prendre, le joueur est automatiquement ramené dans le centre de commande et une vie est perdue. Au bout de 3 vies perdues, les joueurs ont perdu la partie. A leur tour, les joueurs présents vont tirer également des cartes de leur deck, chacune des cartes représentant une attaque ou une manœuvre. La grande différence entre les deux types de cartes, c'est que les manœuvres sont en quelque sorte des espèces de soutien qui vont booster les prochaines attaques. Les attaques, quant à elles, vont demander aux joueurs qui le jouent de lancer un certain nombre de dés qui infligeront ainsi des dégâts aux méchants. Bien évidemment, ces cartes ont un coût d'énergie que chaque joueur va devoir dépenser pour pouvoir la jouer. On peut ainsi se retrouver avec parfois des coûts de 3 ou plus pour les cartes les plus puissantes. Cependant, chaque joueur ne dispose que d'un jeton énergie ainsi que de 2 autres qui sont communs à tous. Il va donc falloir que les rangers présents discutent entre eux pour élaborer la meilleure stratégie tout en partageant ces jetons énergie. Le combat va ainsi se dérouler au tour par tour dans une séquence bien précise, chaque camp pouvant jouer une seule et unique carte. Une fois toutes les cartes méchants résolues, les joueurs vont pouvoir effectuer une dernière action avant que la bataille s'achève et que la phase de jeu puisse reprendre. De même, une fois que tous les joueurs ont effectué leurs 2 actions ou alors qu'ils aient passé leur tour, la phase s'arrête et on passe à un nouveau déploiement avec de nouveaux méchants qui viennent se rajouter à ceux déjà présents.
Mais du coup, à quel moment ils apparaissent, les ordres ?
Alors, à chaque fois qu'un sbire est battu, sa figurine est immédiatement placée sur le powerboard où se trouvent les ordres. Une fois 6 figurines placées, on tire une carte ordre qui va venir aider les rangers à n'importe quel moment. Celle-ci s'ajoute à la grande carte personnage dont dispose chaque joueur. Ces 2 cartes possèdent une capacité qui va grandement aider les rangers dans leur combat.
Oula, ça m'a l'air un peu compliqué ton truc. Hein.
Alors, j'avoue, c'est l'un des reproches que je peux faire à ce jeu. Il m'a fallu un long moment pour bien prendre en main les règles. Les cartes sont pleines de subtilités et il faut souvent relire plusieurs fois les cartes pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Après, même si le jeu n'est dispo qu'en anglais, le vocabulaire reste relativement basique. Et une fois le principe bien en tête, on finit par prendre des habitudes. Mais cela demande quelques parties de chauffe, si je puis dire. Autre point négatif, c'est que le jeu n'est absolument pas fait pour de petits groupes. Je m'explique, il est possible de ne jouer qu'à 2, voire même seul, à condition de contrôler au moins 4 rangers. Mais la difficulté devient beaucoup trop importante. On sent clairement que le jeu est construit pour être joué avec une équipe complète de rangers, et je dirais même qu'il est presque essentiel d'avoir un 6ème ranger pour pouvoir vraiment profiter du jeu.
Mais attends, on a dit que les rangers c'était 5 personnes.
Et là, on touche le gros point fort du jeu, mais aussi son point faible, c'est que même si dans la boîte il n'y a que 5 rangers, il y a quand même des extensions. Le jeu de base finit par être redondant au bout de quelques parties, mais il existe une pléthore d'extensions, incluant ainsi le fameux ranger vert ou ranger blanc, mais aussi les rangers des autres saisons, comme les Dino Tonnerre ou les Time Force. On trouve également de nouveaux méchants, de nouveaux sbires, avec chacun de nouvelles capacités. On donne un réel coup de neuf au jeu, on s'amuse alors à vouloir monter des stratégies en utilisant des rangers de plus en plus spécialisés contre des méchants de plus en plus surprenants.
Là, je pense à ton banquier, parce que niveau prix, ça doit...
Alors, j'avoue que ce jeu est pour moi un véritable gouffre financier. Déjà, le jeu de base en lui-même coûte une 100aine d'euros. À ça s'ajoutent toutes les extensions d'une valeur comprise entre 30 et 80 euros, voire plus. Donc clairement, attendez-vous à craquer un PEL dans ce jeu, mais bon, pigeon un jour. Après, je dois admettre que même si le prix est un peu élevé, la qualité des figurines, elle, est très bonne. C'est d'ailleurs un véritable plaisir de peindre ces figurines pour rendre le jeu encore plus beau. Bien évidemment, rien d'obligatoire à faire cela, mais bon... Et pour ceux qui se disent que c'est un jeu uniquement pour les fans de la franchise, même s'il est vrai que ça aide beaucoup, ce n'est pas nécessaire. J'ai d'ailleurs un ami qui déteste Power Rangers et pourtant il a adoré la mécanique du jeu et le principe en lui-même. Le côté coopératif est absolument essentiel et on est ici dans un jeu qui va demander beaucoup de stratégie et de discussion entre les joueurs. Donc, sans pour autant être du pur fanservice, Power Rangers Heroes of the Grid est un jeu intéressant qui vaut le coup, à mon avis, d'être testé. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient tester ce jeu, sachez qu'avec l'association Tabula Ludos, je serai présent à la baraque à jeux de Beauvais ce dimanche à partir de 15h pour une initiation à Power Rangers Heroes of the Grid. Donc n'hésitez pas à venir tester.
Et pour plus d'infos, rendez-vous sur la page Instagram de l'association Tabula Ludos, mais aussi sur celle de l'Antre du Geek où on vous mettra tout ce dont vous avez besoin. Et merci Damien pour cette chronique.
Mais Orta... C'est une honte de ce que tu fais là, Damien.
Non, mais non. Orta, t'avais joué à ce jeu.
Oui, non, j'avais bien aimé. Non, j'avais trouvé sympa. Non, tu m'avais fait jouer, effectivement, je trouvais bien.
Ah, c'est vraiment dommage que j'ai qu'un autre jeu à jouer dimanche. Oh là là.
Non, mais après, le jeu est intéressant. Encore une fois, c'est. Alors, je sais que Laura, ton mari, va le détester parce que ça demande de la coopération et que lui, il n'aime pas la coopération. Il aime bien taper sur les autres.
Non, il aime les jeux intéressants, c'est tout.
Mais après, voilà. Non, honnêtement.
Il est intéressant. Non, c'est intéressant. Ouais, le jeu. Non, il est pas mal.
Pour l'avoir vu aussi. Il a son intérêt vraiment. C'est juste moi l'aspect volumique du jeu qui m'épate. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, la mécanique, elle a son intérêt.
Bah, en fait, le truc, c'est que ça prend énormément de place, vraiment, vraiment. Et puis, c'est vrai que le souci, c'est les extensions. On n'a pas le choix. Au bout d'un moment, les extensions sont obligatoires.
Pourquoi on n'a pas le choix ? Pourquoi elles sont obligatoires ?
Bah, parce que, comme je l'ai dit, c'est redondant. Après, le jeu de base en lui-même est redondant.
Ah.
Parce que bah, c'est toujours les mêmes Rangers, toujours les mêmes méchants. Au bout d'un moment,
c'est-à-dire que juste avec le jeu de base, la rejouabilité, elle n'est pas grande.
Bah, je trouve que c'est pas...
Non, ça c'est toi qui parles là.
Oui.
Oui.
C'est toi qui as besoin d'une extension rapidement, ouais. Parce que c'est devenu redondant.
T'as vraiment besoin d'un.
Alors non.
Je suis pas sûr que la rejouabilité, tu sois complètement objectif.
Honnêtement, si, ouais. Si.
Et
si.
Ça te fait combien de boîtes au total?
J'en sais rien, il y en a encore...
Trop, je crois que la réponse
Il y en a encore 4 qui arrivent là, qui sont en commande.
Et tu as joué à toutes les extensions?
Non, absolument
ah
pas.
Bah, tu vois,
il y en a qui sont toujours pas déballées.
Donc tu n'as pas acheté d'extension avant d'avoir joué aux précédentes?
Si, parce qu'elles viennent de sortir.
Mais tu les as toutes peintes?
Non.
Et mon mari dit qu'il aime pas parce qu'il aime pas Power Rangers surtout, parce que lui, il a bon goût.
C'est qu'il porte pas des collants pour traîner chez lui.
Je l'avoue que je l'ai testé le jeu. Là, franchement, le jeu, les mécaniques sont super intéressantes, mais ouais, quand je vois que c'est Power Rangers, moi, ça me.
Après, il existe la même chose en version G.I. Joe.
Alors non. Encore moins.
Parce que Renegade Studio a fait exactement la même chose avec G.I. Joe à un tel point que c'est tellement la même chose qu'on peut combiner les deux jeux. Alors, j'ai jamais fait parce que G.I. Joe, j'aime pas, mais.
Mais pourquoi t'aimes pas G.I. Joe? C'est vachement bien G.I. Joe.
C'est marrant.
Je pense que c'est la génération. Moi, je suis génération Power Rangers, toi, t'es génération G.I. Joe.
Puis surtout, à quel moment tu décides que Power Rangers, c'est mieux que G.I. Joe?
Et quand tu joues à Power Rangers, tu mets un petit costume de Power Rangers.
J'imagine bien Damien avec le casque.
Exactement.
L'Antre du Geek, 19h-20h sur Happiness Radio.
Avant de passer à l'Antre du Geek à partir de 20h, je vous propose qu'on s'écoute Dua Lipa et le titre Training Season.